Radio Kapi.
Madame, Monsieur, bonjour. Le nouveau chef de la MONUSCO poursuit sa tournée dans l'est du pays. Après le Nord Kivu, James Swan sera aujourd'hui en Ituri. Et sur place, les attentes sont grandes du côté de la population, notamment en ce qui concerne son appui pour éradiquer le groupe armé et permettre ainsi le retour des populations. Pas de plénière à l'Assemblée provinciale du Sankuru depuis l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de province. Les activités tournent au ralenti. Sur les 25 députés que compte l'institution, environ 18 sont absents, rendant impossible la tenue de plénière. Notre invité Noé Mbavu, chef du département chargé de suivi de représentation provinciale à la Commission nationale de l'énergie. Il s'exprime sur la réglementation des activités humaines en amont des sites de captage d'eau susceptibles de provoquer une pollution. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition d'information qui part de l'Ituri. La MONUSCO est appelée à renforcer son appui au gouvernement pour éradiquer les groupes armés locaux et étrangers responsables de graves violations de droits humains contre les civils. Objectif, permettre à plus d'un million de déplacés de regagner leur village d'origine. C'est l'attente exprimée par plusieurs structures de la société civile à quelques heures de la première visite du nouveau chef de la mission onusienne dans la province, James Swan. Isaac Remoyopé.
Selon la coordination provinciale de la société civile, l'appui de la MONUSCO reste visible dans la protection des civils à travers plusieurs zones de la province de l'Ituri. Des milliers de déplacés installés dans différents sites bénéficient de la présence des casques bleus, notamment à Djaïba, Jina et Ro dans les territoires des Djougou. Mais pour cette structure, la MONUSCO doit aller plus loin sous le leadership de son nouveau chef. Elle appelle à un engagement renforcé pour accompagner le gouvernement dans l'imposition de la paix afin de permettre aux déplacés de regagner leur village après plusieurs années de souffrance dans les sites. Dieudonné Lossa.
Le retour effectif de la population dans leur village, c'est ce que nous attendons parmi les actions que doit mener le nouveau chef de la MONUSCO. Nous ne voulons pas la MONUSCO pour garder les gens dans les sites de déplacés, mais nous souhaitons que cette population rentre dans leur village effectivement.
Dans les territoires de Mambasa, le même appel est lancé. La société civile demande au gouvernement et à la MONUSCO d'intensifier les efforts pour éradiquer tous les groupes armés dans l'est de la RDC, notamment les ADEF et la FCM23. Marie-Noël Anotane, présidente de la société civile du Congo.
La mission qui est de stabilisation, elle devrait être aussi offensive et la MONUSCO s'investit pour rétablir la paix dans l'est du Congo, à commencer par les zones occupées par les M23 et même les zones où ADEF est en train de massacrer la population.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et dans les territoires de Masisi, au nord Kivu, la situation humanitaire demeure très précaire ce mardi, au lendemain de violents affrontements qui ont opposé toute la matinée d'hier lundi des combattants de l'FCM23 à une coalition de Wazalendo à Mitimingi. C'est dans la localité de Kirambo, groupement Ufamandu 2, secteur de Katoi. Selon des sources locales, une accalmie est observée ce mardi, mais la situation reste particulièrement tendue. DDT avec vous, Dona Madimba.
Les forces belligérantes continuent de se faire face dans ce village aujourd'hui, presque entièrement vidé de ses habitants, indiquent les sources de la société civile dans la région. Selon elles, après deux jours d'affrontement, les combattants de l'AFCM23 occupent une partie de Mitimingi, se regardant en chien de faïence avec les Wazalendo de la coalition Pareco et Mai Mai Lamuka qui contrôlent une autre partie du village. Craignant une reprise des hostilités, les habitants de la localité de Kirambo ayant fui vers Biolo ne peuvent toujours pas regagner leurs habitations. Rappelons que les combats ont repris dimanche dans cette zone de Ufamandu 2 après quelques jours d'accalmie. Dans la soirée de dimanche, plusieurs sources ont fait état de l'utilisation de drones de combat par les forces belligérantes avec des bombardements visant certaines positions, notamment celles occupées par l'AFCM23. Ces mêmes sources précisent que la coalition des Wazalendo alliée au FRDC aurait mené une contre-offensive pour freiner l'avancée de l'AFCM23, accusée de s'être emparée du village voisin de Kachouka dans la tentative d'une progression vers le groupement d'Oufamando Ier.
À Lubumbashi, les déplacés de guerre venus de Goma et Bukavu ont passé la nuit à la Belle Étoile devant le gouvernorat de province. Ils y font un sit-in depuis la matinée d'hier lundi. D'après leurs représentants, les déplacés demandent au gouverneur de la province du Haut-Katanga une assistance humanitaire. Devant le gouvernorat, ils vivent dans des conditions difficiles. Ils n'ont pas d'eau, de nourriture, de couverture, ni des lieux d'aisance. Paul Biamungu, leur représentant, explique leur démarche au micro de Paulin Munanga.
Nous sommes ici au gouvernorat et nous avons passé la nuit ici. Et nous sommes ici depuis hier matin à 8h jusqu'à présent, sans rien manger, sans rien boire. Vraiment, c'est regrettable. Nous, les déplacés de la guerre, nous sommes ici au nombre de 181 familles de déplacés de la guerre venus de Goma et Bukavu. Et nous sommes ici pour réclamer nos droits humanitaires, puisque depuis que nous sommes ici, ça fait déjà au-delà de 5 mois sans rien recevoir comme aide humanitaire. Ce que nous avons seulement, ce sont des promesses de la part de nos autorités, de la part des ONG nationales des droits de l'homme, comme promesses seulement, je peux dire. Nous sommes ici avec nos enfants qui sont malades, les enfants même de moins de 2 ans. Il y en a les enfants même de moins de 3 mois, donc les bébés. C'est un calvaire. Nous n'avons pas de l'eau à boire. Nous n'avons pas de quoi manger, nous les déplacés. Les soins médicaux, il n'y en a pas. Il n'y a pas même de toilettes.
Le gouvernement du Burundi et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont annoncé hier lundi dans un communiqué le lancement à compter de jeudi 23 avril le retour facilité de réfugiés congolais vers la République démocratique du Congo dans un cadre strictement volontaire. Selon l'agence congolaise de presse qui cite ce communiqué conjoint, les autorités précisent que le retour s'inscrit dans une démarche volontaire et individuelle fondée sur le libre choix de chaque personne concernée. Qu'en est-il, Alain Irung?
D'après l'agence congolaise de presse, Bujumbura réaffirme parallèlement son engagement à garantir la sécurité, la protection et le respect des droits de tous les réfugiés, tout en poursuivant l'assistance dans les sites d'accueil. L'enregistrement préalable reste obligatoire, ont rappelé l'Office national de protection des réfugiés et des apatrides, ainsi que le HCR. Les candidats déjà enregistrés seront prioritaires, notamment les ménages avec enfants scolarisés, les personnes à besoins spécifiques et les agents publics. Seuls certains territoires du Sud Kivu sont concernés à ce stade, a précisé la même source citant Uvira, l'axe Uvira-Baraka, Fizi, Mboko et la plaine de la Ruzizi.
Les activités tournent au ralenti à l'Assemblée provinciale du Sankuru depuis l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de province. Sur les 25 députés que compte l'institution, environ 18 sont absents, rendant impossible la tenue de toute plénière. La société civile s'inquiète de ce qu'elle qualifie de désertion en pleine période de contrôle parlementaire. Explication avec Estan Dalafina.
Selon plusieurs sources locales, 18 députés provinciaux ont quitté la province dès le lendemain du scrutin. Ils se retrouveraient actuellement à Kinshasa. Ce départ collectif a été dénoncé par 10 autres députés dans une déclaration publique dont la vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux le week-end dernier. La situation est devenue encore complexe. Certains de ces dénonciateurs ont à leur tour quitté le Sankuru pour rejoindre la capitale. À ce stade, les motivations de ces déplacements massifs restent inconnues. Contacté, le président de l'Assemblée provinciale évoque une organisation interne de l'institution. Il affirme qu'une trêve de 10 jours a été décidée après l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, dont 4 jours auraient été déjà consommés. Pour les organisations citoyennes, cette absence généralisée tombe au plus mauvais moment. Elle dénonce un comportement qui fragilise le rôle de contrôle de l'Assemblée provinciale, alors que plusieurs dossiers nécessitent un suivi urgent. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction l'Assemblée provinciale du Kasaï central, où il y a eu dépôt hier d'une motion de défiance contre la ministre provinciale de la Santé, Rose Kamwika. L'initiative émane du député provincial Joseph Nkashama. Elle fait suite à l'interpellation de la ministre qui a l'insatisfaction de l'élu face aux réponses fournies. Le député reproche notamment à la ministre un outrage à l'Assemblée provinciale, une gestion jugée opaque et en manque de compétences. Des détails avec André Katendenga Lamouloumé.
Tout est parti d'une question orale adressée le 19 mars dernier par les députés provinciaux Joseph Nkachama à la ministre de la Santé du Kasaï central. Selon lui, la ministre n'y a pas répondu, ce qui l'a conduit à transformer sa question en interpellation. À travers cette démarche, l'élu voulait obtenir des précisions sur les taux de mortalité maternelle et infantile, la gratuité des soins maternels et néonatales, les mesures de transparence budgétaire, la gestion des intrants médicaux, la surveillance épidémiologique, ainsi que l'état des infrastructures d'eau et d'assainissement dans les structures sanitaires de la province. Se disant insatisfait des réponses fournies, Joseph Nkachama a finalement déposé une motion de défiance contre la ministre Rose Kamwika. Il lui reproche l'outrage à l'Assemblée provinciale pour n'avoir pas répondu à une question écrite, la mauvaise gestion du secteur de la santé, l'incapacité à assumer ses responsabilités et le manque de transparence dans la gestion du ministère. La motion sera examinée dans les 48 heures, soit jeudi prochain. Kananga, André Katendinga Lamoulume, Radio Kapi.
Nous sommes au Sud-Kivu, des femmes et des adolescentes déplacées de Calais, installées dans le groupement de Bagana, ont reçu une assistance en kit hygiénique. Cette action de solidarité émane du club des filles reporters de la radio communautaire de Bouniakiri, dans le même territoire de Calais. Les bénéficiaires sont 45 au total, 20 femmes et 25 adolescentes. À travers ce geste, le club des filles reporters entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leurs semblables contraintes de quitter leur village à cause de la guerre. Jean Kassami nous en dit plus.
C'est le dimanche 19 avril que le club des filles reporters de Bouniakiri a mené une campagne de distribution des kits d'hygiène au profit des femmes et des filles déplacées. Le degré de vulnérabilité a été constaté avant le lancement de l'opération selon le responsable du club, Simon Mihona.
Nous avons choisi d'apporter notre assistance à cette catégorie de personnes déplacées, en particulier les filles et les femmes, parce qu'elles font partie des groupes les plus vulnérables en situation de crise. Elles sont souvent exposées à des multiples risques, notamment les violences, le manque d'hygiène, la précarité et l'absence des moyens pour subvenir à leurs besoins essentiels. Donc à travers cette action, nous avons voulu leur redonner un peu de dignité, de réconfort et contribuer à améliorer leurs conditions de vie au quotidien.
Les kits sont composés essentiellement des seaux, des savons de toilette et des lessives, des sous-vêtements, des brosses à dents, ainsi que des bandes hygiéniques produites localement par les membres du club des filles reporters. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et à Kinshasa, le phénomène fille-mère prend de l'ampleur. Dans les communes et quartiers périphériques de la capitale, de nombreuses adolescentes tombent enceintes très tôt et sont souvent abandonnées par leurs partenaires. Cette situation entraîne une déscolarisation précoce et une stigmatisation sociale et parfois un rejet familial. C'est un reportage de Christophe Ngandou.
Ces phénomènes préoccupants et en croissance touchent particulièrement les adolescentes âgées de 14 à 18 ans dans les quartiers périphériques de Kinshasa. Une jeune mère de 17 ans rencontre un parcours marqué par l'abandon scolaire et l'absence de soutien.
Mon premier enfant, je l'ai eu quand j'avais 13 ans. C'était pénible pour moi, car l'auteur de la grossesse avait fui. J'étais rejetée et abandonnée. Après 9 mois, j'ai accouché. Aujourd'hui, mon fils a 5 ans et l'autre enfant a 2 ans. Son père avait accepté de me prendre en charge.
Pour Joseph Kodé Kayembe, président du conseil d'administration de l'ONG Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, les ADEL, la responsabilité est partagée entre les parents qui doivent jouer les rôles de prise en charge des enfants et l'État congolais qui doit prendre des mesures fermes pour la protection des enfants.
L'État a l'obligation de mettre le moyen pour que les parents prennent en charge leurs enfants. Deuxièmement, la communauté a l'obligation aussi de s'impliquer dans la protection de l'enfant que nous déplorons aujourd'hui. Il faut que la police et la protection de l'enfant s'impliquent. Il faut que les services de sécurité s'impliquent pour que la protection des enfants soit une réalité.
L'ampleur de ces phénomènes est un défi majeur pour les autorités qui doivent renforcer la protection des enfants.
Actualité internationale.
Réuni à Rokier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le conseiller américain Massad Boulos ont réaffirmé leur volonté de coordination face au conflit au Soudan, au Liban et aux tensions impliquant Iran et États-Unis. Le président égyptien a appelé à intensifier les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Soudan lors d'un entretien avec Massad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump pour les affaires arabes et africaines. Selon la présidence égyptienne, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les médiations possible afin d'aboutir à un cessez-le-feu et de soulager une population frappée par une grave crise humanitaire.
L'invité.
Il s'agit de Noé Mbamvu, au chef du département chargé de suivi de représentation provinciale à la Commission nationale de l'énergie. Il s'exprime sur la réglementation des activités humaines en amont des sites de captage d'eau, activités susceptibles de provoquer une pollution. Noé Mbamvu s'entretient avec Florence Kizalunga.
Noé Mbamvu Kitanvu, bonjour.
Bonjour madame.
Comment l'être humain peut réglementer ses activités en amont de sites de captage d'eau susceptibles pour polluer cette eau?
Oui, c'est quelque chose de pas très compliqué. Il suffit d'avoir une certaine discipline dans nos activités. Il y a des activités, quand on les mène en amont du site de captage, il y a des matières chimiques, il y a des matières qui sont dangereuses, des matières qui peuvent rendre l'eau qu'on va traiter beaucoup plus polluée. Et quand cette eau est très polluée, le traitement va coûter très cher, ce qui pose des problèmes pour que nous puissions obtenir de l'eau potable. Ces activités peuvent être les activités surtout humaines, des activités généralement habituelles. Quelqu'un qui est dans le périmètre du site et qui se lave avec des produits qui sont toxiques ou qui nettoie ses produits avec des pesticides, les légumes et tout ça. Quand on utilise par exemple les pesticides dans ce périmètre-là, ça va polluer de l'eau.
Dans notre contrée, par exemple, dans la pomme du Maniement, il y a un sérieux problème d'accès à l'eau potable. Est-ce que, en cette situation des choses, la population, comment peut-elle se comporter pour éviter de continuer à polluer?
Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement doit d'abord être une discipline. Donc, il faut que la population soit informée, parce qu'il y a des choses parfois que nous faisons parce qu'on n'a pas l'information. La population doit être informée de quels sont les comportements que quelqu'un doit afficher pour ne pas déranger la qualité de l'eau. Et dans les sites où on capte de l'eau pour traiter, pour envoyer à la population pour la consommation, il y a ce qu'on appelle les périmètres de protection. Il y a des périmètres de protection immédiate. Il y a des périmètres de protection rapprochés et il y a des périmètres de protection éloignés. Maintenant, tous ces périmètres-là ont des exigences. Il y a des activités qu'on ne doit pas faire dans les limites de ces périmètres-là. Et il y a des dispositions qu'il faut prendre, par exemple, pour protéger ces périmètres. C'est toute une science qu'on doit apprendre. Je sais qu'il y a, par exemple, des arbres qu'il faut mettre dans un certain périmètre. Il y a la végétation, il y a des prairies, il y a. Et surtout, quand on fait l'agriculture, même si c'est l'agriculture qui n'est pas intensive, mais quels sont les produits qu'on utilise dans cette agriculture, dans ce périmètre?
Étant un service habilité à le faire, est-ce que vous avez le temps de chaque fois sensibiliser la communauté pour que la communauté connaisse les comportements qu'on doit adopter pour ne pas polluer de l'eau?
Oui, déjà, notre service, la Commission nationale de l'énergie, a aussi cette responsabilité de sensibiliser la population, donner toutes les informations en matière énergétique et dans tous les domaines qui sont sous sa responsabilité. Nous devons organiser dans la mesure du possible des campagnes de sensibilisation, d'information pour que la population soit au courant de qu'est-ce qu'ils peuvent faire en amont ou qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire aux environs d'un site de captage. Je prends un exemple simple. Il y a des périmètres dans lesquels une personne ne peut pas habiter, ou une activité par exemple agricole quelconque, élevage, tout ça, dans un certain périmètre. Mais si quelqu'un ne connaît pas ça, il peut venir innocemment, il s'installe là-bas, avec l'aide de ceux qui vont lui accorder l'autorisation, qui eux non plus n'ont pas aussi l'information, et ils vont commencer à déranger, à se comporter d'une manière qui est non appropriée en rapport avec l'endroit où la population se trouve.
Comme cela présente un danger humain, qu'est-ce que vous allez dire à cette population qui vous écoute, qui a souvent l'habitude de polluer l'eau qu'elle consomme elle-même?
Oui, d'abord, la population doit avoir l'information parce que ça va de l'intérêt de la population. Une eau qui est polluée, vous avez pollué aujourd'hui, mais les conséquences peuvent vous revenir ou ça peut revenir à un membre de la famille. Et l'autorité, je le sens, est disposée à prendre toutes les mesures nécessaires. On va mettre en place une réglementation spécifique provinciale qui pourra donner à la population l'information nécessaire et lui mettre les limites de ce qu'elle doit faire et de ce qu'elle ne doit pas faire.
Noé Mbamvu, Kintamvu, merci.
Je vous remercie, madame.
Noé Mbamvu, chef du département chargé du suivi des représentations provinciales à la Commission nationale de l'énergie. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Alain Rung et Donna Madimba avec Babette Pongo Massimango à la présentation et Dieudonné Nyanga Salami en ondes. Bon après-midi.